Martineau.
Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
Le vendredi, nous discutons avec Rémi Villemur. Et Rémi, tu veux revenir sur les propos que tenu l'ancien maire de Québec, Régis Labombe.
Ouais.
Qui t'ont un peu secoué.
Ben écoute, ça circule pas mal sur Twitter. Christian Bégin a une émission, La Grande Mèche, je pense, à Télé-Québec. Le 12 avril, il recevait là émission spéciale avec Régis Labombe. Et il discutait sur un banc d'église de tout et de rien, et notamment de ceci. On a un extrait.
Deuil à faire du Québec qu'on connaît. C'est bête à dire, là, mais il y a un deuil à faire du Québec qu'on connaît. Et moi, personnellement, j'ai fait un cheminement émotif là-dessus. Et je pense que collectivement, on a besoin de faire cette démarche émotive-là. C'est plus qu'une démarche raisonnée.
Intellectuellement,
ça se comprend, c'est statistique, etc., etc. Mm-hmm. Mais on a besoin de faire un deuil et de faire la démarche émotive qui nous amène là. Mais il va falloir qu'on en parle. Parce que là...
OK, lui, il a bu le Kool-Aid du multiculturalisme.
Mais ça, on savait déjà, là. Mais là, c'est plus grave que ça, là. Parce que si tu as bien compris ce qu'il dit...
Le deuil du Québec.
Oui, mais donc, le Québec qu'on connaît. Donc, moi, Régis Labombe, je vais lui pardonner, le fait qu'il n'est pas très clair quand il s'exprime, parce que c'est son style, il a toujours été très franc, très direct. Là, on comprend pas exactement ce qu'il veut dire, donc on est un petit peu obligé d'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire, le Québec qu'on connaît? Hein, ça veut-tu dire, moi, personnellement, l'interprétation que j'en fais, c'est le Québec canadien-français, là. C'est-à-dire un Québec majoritairement canadien-français. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est fini.
Majoritairement catholique, de culture,
ouais,
ben,
de culture catholique évidemment. Ouais. Canadien-français, là. Tu vas dire, Kevin Tremblay, Richard Martineau. Bon, tu sais. Là, il dit, c'est fini. Et il faudra en parler. Et là, ce qu'on pouvait pas faire continuer de jouer, là, c'est qu'il dit, parce que là, pour le moment, les seules personnes qui en parlent, ce sont des racistes et des xénophobes. Donc, là, lui, il dit, il faudrait ouvrir la discussion parce que quand on en parle, c'est juste pour tomber dans le racisme, dans la xénophobie. Alors même que moi, je connais quand même bien là, le débat intellectuel autour de cette question-là au Québec, les seules personnes que j'entends s'exprimer sur ce sujet-là, ce sont des gens qui disent, effectivement, le Québec a changé de visage, notamment dans les écoles secondaires. On le voit, là, 43 écoles secondaires à Montréal, 85% des élèves sont nés à l'étranger. Donc, le défi de l'intégration est impossible à accomplir. Tu peux pas t'intégrer. Il y a même plus de majorité dans l'école. Donc, les gens qui s'expriment sur ce sujet-là, on les connaît, Mathieu Bocoté, moi, j'en parle souvent aussi. Ce qu'on dit, nous, c'est, il n'est pas question d'expulser les gens qui sont là, mais il faudra en accueillir moins. Parce que là, le défi est impossible à accomplir et vous voulez que le défi soit encore plus insurmontable. Et pour lui, pour Régis Labombe, ça, c'est raciste et c'est xénophobe. Et il faudrait ouvrir la discussion. Mais, j'ai l'impression que la discussion ne peut pas se tenir si cette opinion-là, en soi, elle est raciste et xénophobe.
Puis, il dit finalement, entre les lignes, sans le dire, que Mathieu Bock-Côté, Joseph Facal, ces gens-là sont racistes et xénophobes.
Bien, tout à fait. Puis, tu sais, il y a toujours un... Moi, je trouve ça... Ben, tu le sais, on en parle souvent. Si t'es pour, ah ben là, t'es ouvert, t'es inclusif, t'es bienveillant, t'as compris c'est quoi la modernité et la lumière, mais si t'es contre, ben là, t'es raciste et xénophobe. Sauf que, c'est pas un détail, là.
Il s'est passé quelque chose chez Régis Labombe, puis on le sait, son traumatisme, c'est ce qui s'est passé à la Grande Mosquée. À la Mosquée de Québec, ça l'a changé. Mm-hmm. Et totalement, parce qu'on se souvient qu'il avait dit, moi, quand je vois un gars qui se promène, sa femme est voilée, puis lui, il est en shirt, puis il est en t-shirt, j'ai le goût d'y arracher la tête. Il avait dit ça, là.
Ben oui, ben oui.
Et là, il est arrivé la Grande Mosquée, puis là, maintenant, on dirait que, bon, il est tombé totalement dans l'inverse, l'autre bord, là. Si tu défends la culture ou l'identité québécoise, t'es d'extrême droite, raciste.
Oui, oui. Tu sais, un homme peut cheminer, une femme d'ailleurs aussi. Moi, il n'est pas là le problème. Le problème, c'est que quand, effectivement, t'as déjà tenu des propos semblables, il me semble que tu te gardes une petite gêne, c'est-à-dire à l'endroit de ceux qui ne tiennent même pas ces propos-là, mais sont tout simplement pas d'accord avec ce que tu... Mettons, moi, je ne pense pas qu'il est possible de réussir le défi de l'intégration quand 85% des élèves dans une école sont nés à l'étranger. Ils ne pourront pas s'intégrer à la majorité canadienne-française. C'est pas possible. C'est impossible. Si tu dis qu'il en faudrait moins et que tu es raciste ou xénophobe, comment la discussion peut s'organiser exactement? Moi, je comprends pas le souhait de Régis Labombe.
Je vais arracher la tête du gars, là, comme tu dis. Mathieu Bock-Côté n'a jamais dit ça.
Non, pas du tout.
Fait penser, Régis Labombe, tu sais, les pires là, anti-tabac, c'est les anciens fumeurs.
Ben oui.
Ben oui. Un ancien fumeur qui arrête de fumer, là, il arrête pas d'écœurer tout le monde, ou un ancien alcoolique qui arrête de boire, arrête pas d'écœurer tout le monde en disant l'alcool c'est mauvais.
Mais ben souvent c'est suspect. T'as envie de te dire, a-t-il des squelettes dans le placard? Mmh. Est-ce qu'il essaye de montrer patte blanche parce que... Tu sais, des fois, t'as envie de te dire, regarde, on le sait là, que t'as changé d'opinion, on le sait que tu veux ta chronique dans la presse, on le sait que tu veux que Radio-Canada t'appelle, c'est correct. Maintenant, peux-tu nous respecter? Il y a du monde qui pense pas comme toi, c'est tout simple.
C'est excellent. Et tu veux me parler d'un texte du New York Times qui dit, vous voulez avoir un couple heureux? Regardez ça, écoutez ça à la maison. La meilleure recette pour avoir un couple heureux, c'est d'arrêter de baiser.
Ben, c'est à peu près ça, effectivement. En fait, ce que le New York Times a observé, c'est que ma génération à moi, donc les gens qui sont nés dans les années 90, on constitue la génération qui baise le moins. OK? Et là, chiffre à l'appui, je pense 50%...
Je te connais un peu, Rémi.
Ouais. Mais écoute, je vais être le porte-parole tout de même de ma génération, une génération qui a horreur du lit, visiblement. Alors, les chiffres à l'appui, 50% d'entre eux font l'amour une seule fois par mois. L'autre 50%, on a des gens qui baisent un peu plus, mais on a quand même aussi un 25% là-dedans, c'est pas fait l'amour depuis un an. Quand même. Donc là, évidemment, moi, je dis, il y a des gens qui ne peuvent pas faire l'amour. Moi, ou qui sont, tu sais, qui ont pas confiance en eux. Ce n'est pas ce dont l'article traite. Okay. L'article parle des couples. Des couples qui ont décidé de ne plus baiser. Et là, il y a des témoignages là-dedans. Écoute, Richard, c'est...
Qui ont décidé ou il y a un des partenaires qui s'est
Ça, c'est sûr que l'homme va toujours dire, oui, moi, j'ai accepté que c'est comme ça. C'est une décision à deux. Mais tu sais, il y a un gars qui dit dans l'article, moi, ma blonde, ce qu'elle aime faire, c'est me prendre dans ses bras dans la douche sous l'eau. Et là, à un moment donné, je sens que tu sais, ça pourrait se passer. Puis elle dit non, là, on est allé, on l'a fait, on est allé trop. C'est correct. On sort, on
s'essuie.
Ouais. Bon, lui, on sent que ça est en train peut-être d'aller un peu plus loin. Mais il y en a qui disent non. Nous, ce qu'on fait, c'est que on sort de la chambre et on laisse l'autre se masturber. Chacun de notre bord, on se masturbe.
Ben bye.
Ouais, mais c'est un vrai phénomène. Et là, donc, le New York Times essaie de comprendre pourquoi. Et l'une des hypothèses, c'est que après. Avoir eu des enfants. On le sait, hein, les femmes, généralement, après l'accouchement, elles sont plus ou moins certaines de vouloir avoir des relations sexuelles. On comprend, Colin, il y a quelque chose de cette ligne qui te sort du corps. Normalement, tu te questionnes un minimum. Mais là, le truc, c'est que ça devient permanent. C'est qu'il y a des couples qui décident de ne plus faire l'amour ou à peu près plus après que l'enfant soit venu au monde. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qui est au cœur de la relation, c'est l'enfant. Avec qui on joue? Avec qui on se chamaille? Avec qui on bricole? Avec qui on joue dans le bac à sable? Parce qu'on veut redevenir des enfants.
Ah, oh
ben oui, mais on en parle à chaque semaine. On veut pas vieillir, Richard. On veut pas vieillir. Alors les
adolescents. On veut revenir à l'époque où on n'avait même pas de vie sexuelle. Mais parce que. On régresse.
Mais baiser, c'est vieillir.
Oui.
Parce que baiser, d'un point de vue anthropologique, ça veut dire se reproduire. Hein? Même si la culture et le cinéma, la musique, tout nous fait oublier ça, qu'on est des animaux, ben on en est quand même. On redemeure des animaux. Donc, notre cerveau associe ça à vieillir. Baiser, c'est un acte d'adulte, baiser. Alors, comme l'enfant arrive et que c'est une possibilité de redevenir un enfant...
De mettre des pyjamas à pattes.
Oui, puis de passer la fin de semaine couché dans le sofa avec lui, puis à jouer. Il est quand même rendu à 4 ans, mettons. Là, tu pourrais le laisser aller jouer tout seul, puis faire l'amour. Mais non, on veut pas. Ça voudrait dire vieillir.
Et je le dis, quand il parle de sa génération, ça n'inclut pas Rémi, je veux dire. Paul Saint-Pierre Plamondon, rapido presto.
Ouais.
On en a beaucoup parlé, je veux rien qu'avoir ton grain de sel là-dessus.
Écoute, moi, il y a une chose qui me désole à chaque fois que quelqu'un parle d'histoire, et Paul Saint-Pierre Plamondon en parle pas chaque semaine. Là. Il suffit qu'il en parle une fois et qu'on se mette à capoter. On se met à dire, mais c'est loin derrière nous, les déportations, les exportations, la conquête. Pourquoi on parle de ça? Ben parce que l'histoire, elle ne se défile pas. Richard, elle nous traverse. Et parlez-en aux Acadiens, hein, qui se sont fait moquer l'autre jour à la Chambre des communes. Puis on parle de la conquête, hein. Il en parle, puis là on se dit, voyons, c'est 1759. La conquête, on la vit tous les jours, Richard. Le cabinet ministériel de Justin Trudeau, la moitié des ministres parlent pas français ou parlent un français incompréhensible. La gouverneure générale, son mot préféré en français, c'est chou de Bruxelles. Puis elle a pas appris le français plus que ça. J'ai écouté l'entrevue, elle dit, I love chou de Bruxelles. Shut up. C'est pas vrai, shut up. La conquête, on la vit tous les jours. Le français décline. L'OQLF a produit une étude l'autre jour, puis est revenu sur sa parole. Il faut lire l'article de Fanny Arcand dans la presse. Qu'est-ce que dit l'OQLF? Dit, ouais, on avoue que ça représente pas vraiment le Québec d'aujourd'hui. On a des chiffres de 2020, mais ça a changé depuis. On a été conquis. Et le rappeler, c'est pas inutile une fois de temps en temps. Et le projet souverainiste, effectivement, il faut qu'il tienne en compte l'histoire, mais heureusement, il est tourné vers l'avenir. portez attention, écoutez vraiment les souverainistes en ce moment. Ils vous parlent pas juste de ressentiment puis d'histoire, ils vous parlent d'un projet de société pour l'avenir. Donnez-leur une chance.
Donc, moi, je dis tout le temps, je ne suis pas poussé par le passé, je suis tiré par l'avenir, mais tu dis, on peut être les deux.
Ben, tout ça, oui, t'es tiré et il y a un vent qui te pousse.
Il y a un vent qui te pousse.
Effectivement.
Merci beaucoup, Rémi. Bon week-end.
Bye. Salut. Bye.